cas des jeunes de notre âge. Donc il y a une certaine nuance quand même dans ces rapports fraternels. Et puis tout doit être fraternel, que ce soit pour encourager, que ce soit pour faire des reproches aussi. 2 Thessaloniciens nous dit, ne le tenez pas pour un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Vous voyez, même dans la manière de dire des choses négatives, ça doit être fait fraternellement. Donc on peut dire que l'esprit fraternel, l'esprit familial doit présider à toutes nos relations, même si quelquefois il y a un peu de tension. On passe maintenant à la sixième et avant-dernière image. Alors c'est le corps. C'est vrai que j'ai gardé un peu les deux plus importants pour la fin, les deux plus riches sans doute. Le corps de Christ. L'Église, c'est le corps de Christ. Alors on va lire 1 Corinthiens 12, verset 12. Car de même que le corps est un et qu'il a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoi qu'ils soient plusieurs, sont un seul corps, ainsi aussi est le Christ. Un seul corps, ainsi est le Christ. Vous voyez, nous sommes plusieurs membres, membres d'un seul corps, et ce corps, c'est le Christ. On s'attendrait à lire à la fin du verset, ainsi aussi est le corps du Christ. Et on lit, ainsi est le Christ. Ça montre vraiment une identification de l'Église au Christ. L'Église, elle fait partie du Christ, c'est son corps, c'est son propre corps. Et ça, c'est vraiment une image extrêmement forte, qui nous montre à quel point nous sommes liés au Seigneur Jésus. Et même dans le livre des Actes, un frère m'a fait remarquer il n'y a pas très longtemps, dans Actes 11, c'est à Antioche. Il est dit que plusieurs âmes furent ajoutées au Seigneur. Ce n'est pas ajouté à l'Église, c'est ajouté au Seigneur. Alors vous voyez, il y a encore cette idée du corps de Christ. Hein, ils deviennent membres du Christ. Pas vraiment membres de l'Église, membres du Christ. Il y a une identification du Seigneur avec son Église. Et alors ça aussi, ça va avoir des conséquences pratiques. Parce que quand le Seigneur reproche à Paul de persécuter les chrétiens, il ne lui dit pas « Je suis Jésus dont tu persécutes les disciples ». Il lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Vous voyez, le Seigneur s'identifie avec ses rachetés. Donc c'est son propre corps. Et si on touche un racheté du Seigneur Jésus, on touche le Seigneur Jésus. C'est lui qu'on offense, qu'on agresse. Donc il y a une identification. Bon, alors après, bien sûr, il y a l'idée de la tête. Christ, en même temps, est la tête de ce corps. Ce n'est pas dans 1 Corinthiens 12, c'est dans Colossiens 1, verset 18. Il est le chef du corps de l'assemblée. La note dit la tête, donc c'est vraiment l'idée de la tête qui commande. Et en même temps, dans Éphésiens, on pourrait aussi regarder, la tête nourrit en même temps le corps. Hein. Nul ne haït sa propre chair, mais il la nourrit, il la chérit, comme le Christ l'assemblée. Donc c'est sa propre chair ici, c'est son propre corps. Alors c'est la tête qui décide de nourrir le corps. Bon, mais là je ne veux pas trop développer. En tout cas, c'est très important quand même de souligner qu'il y a un seul chef de l'Église, une seule tête dans l'Église, c'est Christ. Il ne peut pas y avoir un homme sur la terre qui représente, qui a autorité sur toute l'Église et qui la représente totalement. Non, le seul chef de l'Église, c'est le Christ. C'est lui la tête. Et alors après, vous voyez que chaque fois, ça nous amène à envisager nos relations avec le Seigneur et ensuite nos relations entre nous. Donc dans ce corps, il y a des membres qui vont avoir des relations les uns avec les autres. Et dans tout ce chapitre 12 de l'Épître aux Corinthiens, il me semble qu'il y a trois aspects principaux qui sont abordés. La première chose, c'est que nous sommes différents. Alors ça, c'est, on peut dire, du verset 14 jusqu'au verset 20. C'est l'idée que nous sommes plusieurs et que nous sommes différents et que l'un ne peut pas dire à l'autre, tu n'es pas membre du corps parce que tu n'es pas comme moi. Non, on est tous différents. Et donc, il faut savoir vivre cette diversité comme une richesse, bien sûr, pas comme une difficulté, mais comme une richesse. Parce que, à partir du verset 23, nous voyons que nous sommes complémentaires. Et ça, c'est à peu près du verset 23 jusqu'au verset 25. Les uns sont complémentaires des autres. Et même ceux qui, en apparence, ne sont pas très remarqués, ont un rôle important à jouer. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir un rôle très discret dans l'Église, mais il ne faut vraiment pas se dévaloriser à cause de ça. Ce n'est pas parce que c'est discret. Là aussi, dans le corps, il y a des organes qui sont discrets et qui sont très importants. Donc voilà, on a une diversité qui fait que nous sommes complémentaires et qu'on a besoin de tout le monde dans le corps de Christ. Et puis également, ensuite, l'idée que nous sommes solidaires. Ça, c'est l'idée d'avoir un égal soin les uns des autres. Et puis, si un membre souffre, tous souffrent avec lui. Si un membre se réjouit, tous se réjouissent avec lui. On partage aussi nos émotions, on partage nos états d'âme. Ça, je pense que c'est important de le vivre dans une assemblée locale, de vivre ensemble au coude à coude, à la fois les joies et les peines, de savoir les partager. Et on doit être tous sensibles à ce qui arrive à nos frères et sœurs dans la foi. Je pense par exemple en ce moment, bon, c'est pas local, mais ces otages coréennes qui sont retenus, est-ce que vous y pensez? C'est quelque part, c'est nous sommes membres les uns des autres. Et on est avec eux, avec elles, otages de ces talibans aujourd'hui. voyez? Sachons comme ça, quelquefois, rebondir un peu sur l'actualité, non pas pour savoir beaucoup de choses sur ce qui se passe dans le monde, mais pour être touché là où il faut être touché. Vous voyez, d'une manière utile, on se sent quand même solidaire de ses croyants. Et puis, il n'y a pas qu'elle. Hein. C'est vraiment, malheureusement, c'est dans beaucoup d'endroits, au Darfour ou ailleurs, où des chrétiens par milliers souffrent. Donc, sachons nous sentir concernés par tout cela, sans oublier, bien sûr, de le faire aussi dans notre assemblée locale. Parce qu'il ne s'agit pas non plus d'être très au fait de ce qui se passe ailleurs. Et puis, de côté de nous, il y a un frère qui souffre et on l'oublie un peu. Voilà, alors ça c'est le corps de Christ, vous voyez, ça nous approche très très près du Seigneur Jésus, hein. C'est vraiment cette identification avec lui. On est membre de son corps et si on nous touche, bien c'est lui qu'on touche. C'est quelque chose qui le concerne. Et puis j'arrive à la dernière image, qui est l'épouse, septième. C'est sûrement la plus belle et la plus riche et sûrement aussi la plus proche de la réalité, parce que ce ne sont que des images, je rappelle, mais c'est sûrement la plus proche de la réalité. Évidemment, je ne me sens pas très habilité à épiloguer longuement sur ce sujet, donc je vais me contenter de proférer quelques évidences. Tout d'abord, c'est que ça montre ici, au-delà de l'identification du Seigneur, ça montre l'amour du Seigneur pour son Église. Un amour fort et un amour total. Selon Éphésiens 5, verset 25, le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça, c'est vraiment le sommet de l'amour, c'est de se livrer pour quelqu'un. C'est de donner sa vie pour ses amis, comme l'a dit le Seigneur Jésus. C'est comme ça qu'on a appris ce que c'était que l'amour. Que le monde a appris ce que c'était que l'amour. Jusque-là, qu'est-ce que c'est que l'amour? Là, on l'a compris, enfin. Le Seigneur, en venant sur la terre, il a montré ce que c'était que l'amour. Aller jusqu'à donner sa vie par amour, ça, c'est l'amour. L'amour, c'est donner, mais se donner, alors ça, c'est le Seigneur a donné, on peut dire, à l'humanité une leçon d'amour qui a des conséquences pendant des siècles. Un amour total, c'est comme ça que le Seigneur Jésus nous aime. On peut dire aussi, dans un certain sens, un amour jaloux, c'est-à-dire qu'il ne veut pas nous partager avec autre chose. Et qu'est-ce que ça serait autre chose? Eh bien, ce sont les idoles. Si l'Église a des penchants pour certaines idoles, ou les chrétiens, eh bien, on peut dire que le Seigneur Jésus est jaloux. Alors, vous voyez, c'est un sujet un peu ambigu, la jalousie, hein, parce qu'on dit que c'est un défaut, la jalousie, d'habitude. Mais pourquoi est-ce que pour le Seigneur, Dieu est un Dieu jaloux aussi, d'ailleurs, ça nous est dit, et pourquoi est-ce que le Seigneur a le droit d'être jaloux, lui? J'ai un peu réfléchi à cette question, il me semble que la différence entre les deux, c'est que la mauvaise jalousie, c'est être jaloux de ce qui ne nous appartient pas. Mon voisin a une plus belle voiture que moi, je suis jaloux de mon voisin, je suis jaloux de la voiture qui ne m'appartient pas. Voyez? Mais si par contre, imaginons un mari, c'est normal qu'il soit jaloux de sa femme, parce que dans un certain sens, elle lui appartient, vice-versa d'ailleurs pour sa femme, hein, il lui appartient aussi. Comprenez la différence. Être jaloux de ce qui vous appartient, c'est légitime, et c'est normal, parce que un lien de cette nature n'est pas fait pour être partagé. Donc le Seigneur nous aime, nous lui appartenons, et donc en ce sens, c'est normal qu'il soit jaloux. Et alors comment on le provoque à jalousie? C'est ce que nous dit en Corinthiens 10. Provoquons-nous le Seigneur à jalousie quand on va dans les temples d'idoles, c'est ce que disait Paul. Vous voyez, c'est en lien avec les idoles. Nous pouvons rendre le Seigneur jaloux si nous avons des choses qui attirent notre cœur, mais avec une force comparable au Seigneur Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'aimer aussi, à commencer par son conjoint, les membres de sa famille, les chrétiens, tous les hommes même, il faut aimer, bien sûr. Mais à partir du moment où ça prend la première place dans mon cœur, voilà, là le Seigneur est jaloux, on peut dire. Parce que la première place, elle lui appartient. Donc, le Seigneur a le droit d'avoir la première place dans notre cœur. C'est comme ça qu'il est jaloux. Donc, réservons-lui la première place dans notre cœur. Et puis, ça c'est le côté du Seigneur Jésus, il y a le côté aussi de l'épouse. Alors, l'épouse, bien sûr, Paul dans 1 Corinthiens 7 dit, en s'inspirant des choses de la vie, que bien, une femme mariée, ben, tout naturellement, qu'est-ce qui la préoccupe? C'est de plaire à son mari. Il dit ça, je ne pense pas d'une manière péjorative, il dit ça parce que c'est la vie. Bon. Eh bien, on va s'inspirer un peu de ce principe qui est pris dans la vie courante pour montrer que bien l'Église, dans ce sens-là, en tant qu'épouse, quelle va être sa préoccupation? Eh bien, c'est de plaire au Seigneur Jésus. Et ça nous donne une motivation pour bien faire. On peut bien agir quelquefois avec des motifs qui ne sont pas toujours justes, mais si on agit vraiment pour plaire au Seigneur, parce que ça, vous voyez, ça échappe à notre société de l'image. Plaire au Seigneur, quelquefois vous allez plaire au Seigneur tout seul sans que personne ne s'en aperçoive. Vous voyez, à chaque seconde, vous cherchez à plaire au Seigneur et vous êtes tout seul dans un endroit, dans vos pensées, même dans vos pensées, vous cherchez à plaire au Seigneur, ça amène à une piété autre que celle qui consiste à paraître devant les autres. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Un peu comme une femme cherche à plaire à son mari, non pas devant tout le monde, peut-être, mais en tout cas, même si elle est tout seule avec son mari, elle cherche quand même à lui plaire. Vous voyez, c'est ça. Et il y a un amour tellement fort qu'on cherche à lui plaire en permanence, non pas pour se donner des airs, mais parce qu'on l'aime et qu'on veut lui plaire. Et ça va nous amener à une piété qui est autre que celle qui consiste à se montrer devant les autres. Et puis, je voudrais finir sur cette image encore de l'Apocalypse. Bien sûr, là, c'est les noces de l'agneau. Alors, c'est le dénouement, on peut dire, de cette relation en tant qu'épouse. Et là, il nous est bien précisé que cette mariée, cette épouse, elle a une robe qui est faite de fin lin. Et on lit que ce fin lin, ce sont les actes justes des saints. Alors, nous pouvons tous préparer cette robe, nous travaillons tous à cette robe qui habillera l'Église au moment de ces noces de l'agneau par nos actes justes. Voilà encore une bonne motivation, on peut dire, pour bien agir. C'est un peu comme, on pourrait comparer, si vous me permettez, l'Église un peu à Pénélope, mais enfin, c'est quand même plus beau que Pénélope, parce que Pénélope, elle faisait, elle défaisait, hein, vous savez, pour gagner du temps, alors que l'Église, là, elle est en train de broder une robe pure, parfaite, de fin lin, pour en être habillée lorsqu'elle sera présentée au Seigneur Jésus. Alors nous aussi, nous pouvons nous appliquer à y ajouter quelques fils dans cette robe de fin lin.